Les glaneurs. Les glaneurs. Les glaneurs.
Motion, méthode, memory en anglais. En français, ça veut dire mouvement, méthode, mémoire. On va voir un petit peu ce qui se cache sous cette appellation un peu particulière, un peu étrange. Alors, motion, méthode, memory, moi, j'ai découvert comme collection, mais avant cela, c'est un collectif d'artistes, on va dire une sorte de mouvement d'artistes, d'artistes d'horizons assez différents. Il y a des vidéastes, il y a des poètes, il y a des plasticiens également. Vous pouvez aller voir des ébauches des œuvres qu'ils ont élaboré sur leur site internet, donc c'est motionmethodmemory.com tout simplement. C'est un site assez intéressant. Donc comme je disais, moi je les ai découverts comme collection aux Presses du Réel. Alors les Presses du Réel, c'est une maison d'édition extrêmement importante pour toute personne qui s'intéresse au milieu de l'image, à la philosophie de l'esthétique ou à l'esthétique. C'est vraiment une maison fondamentale. Ils ont des essais particulièrement intéressants sur la chose. C'est une maison lyonnaise. Alors dans le sein de cette maison, donc on a vu éclore il y a 8 ans maintenant, donc en 2008, une petite collection qui s'appelle Motion Method Memory, qui a été créée par deux membres de ce groupe. J'ai nommé Abigail Lang et Dominique Pasqualini. Alors, ils ont commencé cette collection avec un titre de David Antin qui s'appelle « Ce qu'être d'avant-garde veut dire ». Et puis après, en 8 ans, eh bien, on a vu 5 autres titres seulement. Donc c'est très peu, 6 titres pour une collection, c'est même pas un titre par an. Et pourtant, si je décide d'en parler, c'est vraiment parce que c'est une collection qui va profondément marquer et rénover notre manière d'envisager le langage, mais également les rapports que l'on peut avoir avec d'autres langues. Alors, comme la collection est assez courte, ben autant pour une fois nommer tous les titres qu'il y a dans cette collection. C'est assez rare que pour pouvoir le faire. Alors, il y a 2 titres de David Antin, « Ce qu'être d'avant-garde veut dire » et « John Cage sans cage » ou « John Cage sans cage » ou « John Cage sans cage », c'est difficile à prononcer. Il y a, alors là, c'est de la poésie assez particulière, j'en parlerai, mais c'est de la poésie. On a un roman qui s'appelle Les Nigauds, mais un roman très particulier puisqu'il est écrit par 2 poètes américains également, comme David Antin. Il s'appelle John Ashbery et James Scullier. Donc ce sont 2 poètes américains assez connus. Il y a ensuite 2 titres qui sont assez particuliers. C'est pas vraiment des livres, qui sont regroupés sous le nom Double Change, donc double change en anglais. Et puis alors, il y a un titre de Talia Field qui s'appelle L'amateur d'oiseaux côté jardin, qui est aussi un titre très particulier. Alors, plutôt que de faire tout un long discours comme ça, un petit peu abstrait sur la chose, autant prendre la chose à bras le corps et parler peut-être du premier titre qu'ils ont édité, ou plus précisément de l'auteur de ce premier titre qu'ils ont édité, donc qui est un titre de David Antin. Alors, David Antin, c'est un... il est très difficile à cataloguer. On va dire que c'est un poète, c'est un linguiste aussi, c'est quelqu'un avec une culture absolument phénoménale. C'est un performeur, c'est un conférencier. Il est né en 1932 aux États-Unis. Il vit maintenant à San Diego. Et pour toutes les personnes qui le connaissent, non seulement en langue anglaise, mais aussi en langue française ou autre, c'est un personnage devenu culte dans le monde de la poésie. Non seulement dans le monde de la poésie, mais même de la création littéraire. C'est vraiment quelqu'un de mythique. Alors, qu'est-ce qu'il fait, David Antin, pour être devenu aussi mythique? Eh bien, il élabore ce que l'on appelle des talk poems, c'est-à-dire des poèmes parlés ou des parlés. Alors, sur la page, ça se présente comment? Eh bien, on a une suite de phrases sans aucune ponctuation, donc pas de virgule, pas de point d'exclamation, ni d'interrogation, etc. Les phrases sont séparées par des espaces qui sont simplement un peu plus grands que ceux que l'on peut trouver entre des lettres ou entre des mots. Et puis, alors, sur la page également, on voit quelque chose qui bouge d'assez mouvant, tout simplement parce que la marge de gauche comme la marge de droite n'est pas fixe. Donc, on a vraiment une impression de mouvement. Alors, c'est bien beau de décrire un peu à quoi ça ressemble, mais qu'est-ce qu'il en fait et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, tout simplement parce que ce que l'on voit sur la page, ce qu'on lit sur la page, c'est l'inscription d'un enregistrement de performance qu'il faisait, de performance ou de conférence qu'il donnait. Alors, des conférences sur quoi? Eh bien, sur plein de sujets. Ça pouvait être sur John Cage, comme le titre d'un de ses livres, mais ça pouvait être aussi, je ne sais pas, sur la frontière, par exemple. Il y a un titre très important de lui qui s'appelle « Talking at the Boundaries », donc « Parler aux frontières ». Ça pouvait être sur le phénomène de structure aussi. Qu'est-ce qu'une structure? Donc, sur des phénomènes, sur des sujets extrêmement vastes. Et donc, il était invité à parler de ces sujets. Il s'enregistrait et puis il inscrivait sur la page le résultat de sa conférence. Conférence un peu particulière, mais conférence quand même. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne des phrases qui passent du coq à l'âne. On peut passer de la philosophie la plus spéculative aux mathématiques, par exemple, ou à la biologie, à quelque chose de technique. On peut passer de l'élaboration d'une pensée un peu éthérée, un peu pure, à quelque chose de purement ou même d'extrêmement drôle. Donc on change de registre, on change de genre sans arrêt. On passe du coq à l'âne, mais si on passe du coq à l'âne, c'est toujours dans le but de construire quelque chose sur le sujet pour lequel il avait été invité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, sans vraiment s'en rendre compte, eh bien on va définir avec énormément de rigueur, avec énormément d'originalité, on va circonscrire un sujet. Et ça, c'est extrêmement précis.
Et il y a de la place pour l'improvisation,
quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'il arrivait, donc il n'avait pas préparé, il avait préparé, mais il n'avait pas écrit sa conférence. Et c'est au fur et à mesure, finalement, qu'il parle, qu'il va construire sa conférence. En fait, c'était l'idée de construire finalement une pensée par le langage. Comme le langage, on peut le laisser aller de manière un peu organique, eh bien le langage en lui-même va enrichir sa pensée et la construire autre, mais la construire quand même. C'est toujours une construction. Ça, c'est pour David Antine. Pour les Nigauds, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Comme je l'ai dit, ce sont deux poètes qui ont conçu ce roman de manière très étrange. Alors, ce sont des poètes aussi très organiques, c'est-à-dire qui utilisent le hasard de manière presque prédominante dans leur œuvre. Donc, c'est-à-dire l'idée de créer quelque chose, pas nécessairement de nulle part, mais de laisser faire la langue, de laisser faire les mots eux-mêmes ou de leur laisser une liberté. Donc, ils se sont dit à un moment, eh tiens, si on écrivait un roman, comme tout éditeur demande forcément à ses poètes, à un moment, tiens, t'écrirais pas un roman, c'est quand même plus vendable. Ben, c'est ce qu'on leur a demandé un jour. Ils se sont dit, ben oui, on va se prêter au jeu. Mais plutôt que se prêter au jeu de manière naturelle, comme ça, ils l'ont fait de manière naturelle, mais pour eux. C'est-à-dire que l'un des deux, je ne sais plus lequel, a écrit une première phrase qui était « Alice était fatiguée » en disant à l'autre « Eh bien, écoute, continue. » Chaque poète intervenait phrase par phrase. Donc, une phrase par l'un, une phrase par l'autre, au début. Et puis, petit à petit, ça a changé. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés des plages de plus en plus étendues ou du moins de plus en plus libres pour créer quelque chose.
Sinon, à mon avis, le livre ne serait pas encore édité.
Ça aurait été un peu difficile. Alors, ça a pris pas mal de temps, hein, puisqu'ils ont commencé en 1952 et c'est seulement en 68 que ce livre a été édité. Alors, ça donne quelque chose d'assez particulier, d'assez étrange, effectivement, de très, très drôle, puisque cette espèce, là aussi, de coq à l'âne ou de réponse systématique donne quelque chose d'un peu hybride, mais d'assez drôle. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose de construit. Alors, ce n'est pas uniquement drôle, ce n'est pas uniquement quelque chose de purement oulipien, comme ça, de purement récréatif. Il y a une vraie idée derrière, c'est d'essayer de montrer en quoi le hasard peut être circonscrit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on laisse l'autre travailler sur quelque chose que l'on a soi-même conçu de manière totalement libre, eh bien, ça donne une place à l'autre qui sinon serait occupée par le hasard. Donc, c'est vraiment un mouvement, quelque chose d'assez simple, d'assez libre, mais derrière, il y a aussi une idée qui est construite. Et puis alors, il y a la troisième chose dont je voulais parler, qui est Double Change, et qui n'est pas à proprement parler un livre. D'ailleurs, je propose qu'on en écoute peut-être un extrait, parce que c'est une forme de livre dont on peut écouter un extrait.
Je n'ai pas encore reçu ta prochaine lettre, mais j'y réponds immédiatement. Tu m'y demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. Tu te demanderas peut-être comment, n'ayant pas encore reçu ta prochaine lettre, je peux savoir que tu m'y demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. La réponse est simple. Toutes tes lettres, et celle-ci sera la 317e, je les ai toutes ainsi que les doubles de toutes mes lettres, commencent par « As-tu reçu ma dernière lettre ? » Si oui, et je serais fort étonné que tu ne l'aies pas reçue encore. Si c'était le cas, fais-le-moi savoir. As-tu l'intention d'y répondre ? C'est ainsi que commençait la première lettre que j'ai reçue de toi, c'est ainsi que commençait la deuxième, la troisième et ainsi de suite jusqu'à ta dernière lettre, la 316e. Raisonnant donc par induction, j'en déduis que ta prochaine lettre commencera comme les précédentes. Je me considère en conséquence autorisé à y répondre comme si je l'avais dès maintenant reçue. Et je te réponds comme suit. Je viens de recevoir ta dernière lettre et j'y réponds immédiatement. Tu me demandes si j'ai bien reçu ta dernière lettre et si j'ai l'intention d'y répondre. Je me permets de te faire remarquer que l'envoi de ta dernière lettre fait que la lettre que tu m'as envoyée précédemment n'est plus désormais ta dernière lettre et que si j'y réponds comme je suis en train de le faire à ta dernière lettre, je ne réponds pas à celle qui est maintenant ton avant-dernière lettre. Je ne peux donc satisfaire à la demande que tu me fais dans ta dernière lettre. J'observerai par ailleurs que ta dernière lettre ne répond pas, contrairement à ce que tu affirmes, je te cite, j'ai bien reçu ta dernière lettre, j'y réponds immédiatement, à la lettre où je te demandais si je ne m'abuse, mais je ne m'abuse pas, j'ai les doubles, si tu avais bien reçu ma dernière lettre et si tu avais l'intention d'y répondre. En l'absence d'éclaircissement et de réponse de ta part sur ces deux points auxquels j'attache à bon droit, je pense, une certaine importance, je me verrai à mon regret obligé d'interrompre notre correspondance.
C'est vraiment savoureux.
C'est très savoureux. Alors, de qui s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de Jacques Roubaud, qui est un très grand poète français, un des plus importants actuellement. Alors, pourquoi je fais écouter ça ? Eh bien, tout simplement parce que Double Change, c'est une suite de... Enfin, c'est une double suite de CD, enfin de DVD, que l'on peut donc regarder, et qui est un double ensemble de 9 DVD chacun, qui présente pour chacun une heure d'échanges entre un poète américain et un poète français. Alors, des échanges qui peuvent prendre diverses formes. Soit c'est un dialogue avec des traductions, soit c'est une suite de lectures qui est traduite en anglais ou en français. Donc, vraiment une notion d'échange, comme l'indique le titre, un double change. Alors, si j'ai choisi cet extrait de Roubaud, c'est parce que Roubaud joue vraiment un rôle extrêmement important dans la poésie française, bien entendu, mais il a joué un rôle aussi extrêmement important dans la découverte de la littérature américaine et de la poésie américaine. C'est quelqu'un qui, il y a déjà cela un petit temps, je ne saurais plus vous dire la date exactement, mais qui a édité chez Gallimard un ensemble, une forme d'anthologie de la poésie contemporaine américaine et qui a véritablement changé le visage de la poésie française, qui non seulement donc a permis de découvrir des poètes américains, mais qui a profondément, chamboulé la manière d'écrire de la poésie en France, avec des noms comme Jacques Roubaud, bien entendu, comme Philippe Beck, mais aussi comme Emmanuel Locard, qui sont des noms très importants. Alors, donc on a vraiment un titre de David Antin avec ce poète très particulier qui écrit le mouvement dans la page, un mouvement avec l'autre, de l'un à l'autre, d'un auteur à l'autre avec un Inigo, et puis ce mouvement d'une langue à l'autre. Eh ben, je pense que ça définit très très bien l'esprit et la volonté de Motion Method Memory, qui est peut-être d'essayer de trouver la meilleure méthode d'un moment, finalement de notre moment, pour créer une mémoire, ou peut-être autrement dit, de créer de la mémoire autour d'un mouvement, autour de ce qui peut se faire non seulement d'un mouvement artistique, mais aussi du mouvement en tant que tel. Pour préciser qu'une langue, une écriture, une littérature, une philosophie, une pensée, quelle qu'elle soit, ne peut se faire que dans le mouvement. C'est absolument quelque chose de fondamental pour eux.
Puis j'imagine, comme beaucoup de ces textes nous viennent de l'anglais, qu'il y a un soin tout particulier qui a été apporté aux traductions.
Ah ben là, je dirais que le soin ici n'est même plus de voir la traduction comme quelque chose qui viendrait s'apposer sur un texte. C'est la traduction fait partie du texte lui-même. D'ailleurs, il y a des textes qui sont écoutés dans ce Double Change, qui est presque une anthologie de la poésie américano-française.
Mais je vois ici, il y a deux volumes de 9 DVD chacun.
C'est
de la matière.
C'est énorme. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement intéressant pour découvrir les rapports entre les deux ou le mouvement dans la poésie, mais même pour découvrir la poésie française contemporaine ou la poésie américaine contemporaine. C'est une mine absolument merveilleuse. Alors, avec des talents d'orateurs différents suivant les poètes, c'est parfois pas toujours réussi. Je pense qu'ici, Jacques Roubaud, c'était pas mal. Il y en a d'autres qui sont intéressants. Mais ça permet déjà de découvrir effectivement, au-delà du mouvement, simplement la création contemporaine en poésie.
Est-ce qu'on écouterait encore un court extrait de Double Change ?
Un court ou même un long, allons-y.
Si aile et béquille, alors élan vertical à la doublure du bois debout, où terme, T est son nom. Élan vertical tient à terre. Il appuie sur le bouton champ, sur l'homme meublé. Et si vie de terre est la seule, c'est qu'envoler est l'hommage à l'horizon, à l'habitat de l'horizon. Si difficulté s'appelle blessure, c'est que blessé peut s'envoler pour mieux rester sur terre. Comme le danseur qualifié par aptitude à se cintrer dans l'air intermédiaire avant de plancher. Convalescent à des élans et la doublure, c'est l'intérieur. L'aile est discrète à la façon de la foulure ou la fracture. Elle est la béquille dedans, chair humble et affamée, plongée dans la rugueuse densité. D. Deux collections de plumes pour survoler le plomb dans le silence de la gravitation ne sont que des ailes seules, des termes de bois, le soutien deux fois sculpté à l'horizon de la vieille santé. Car la santé peut effacer l'aile, et que béquille n'est qu'elle à terre, matériel de l'estimation. Bifurcation sous la dépendance d'onomatopée.
C'est tout de suite moins léger que le premier extrait, Emmanuel Roquette.
Oui, alors il s'agit ici de Philippe Beck, c'est effectivement moins léger, mais c'est vraiment de la poésie de Philippe Beck qui travaille énormément sur les allitérations, sur, comme il le dit à la fin, les onomatopées. On entend l'aile. Qu'est-ce qu'une aile? C'est la forme du L, c'est l'aile de l'oiseau qui a rapport avec la plume, qui est en contradiction avec le T, avec le D, avec des lettres plus dures, etc. Enfin, c'est toute une poésie, c'est presque une philosophie, Philippe Beck. C'est un tout grand poète français actuel, mais effectivement peut-être un peu moins léger que Jacques Roubaud.
On continue à parler de cette collection et de ce mouvement Motion Method Memory, juste après Niccolò Pagani. Teddy Papavrami, Christophe Larieux, dans le mouvement perpétuel en mi bémol majeur, opus 2 de Niccolò Paganini. Nous poursuivons cette émission L'Aigle à Nord, toujours avec votre sujet sur la collection et le collectif Motion Method Memory, Emmanuel Roquette.
Oui, alors y a toujours cette idée de la traduction de mouvement d'une langue à l'autre à travers l'Atlantique. Peut-être l'idéal aussi, c'est peut-être de passer, eh bien, pourquoi pas, un court extrait d'un poète extrêmement important aux États-Unis qui s'appelle Charles Bernstein.
Mais on va l'écouter, c'est donc en anglais, et vous nous disiez que ce n'est pas forcément important de vraiment maîtriser cette langue pour profiter.
Il y a vraiment une musicalité. Alors lui, par contre, c'est un remarquable, je vais pas dire performeur, mais orateur, vous allez l'entendre, c'est vraiment très drôle. En plus de ça, c'est aisément écoutable, pour même quand on ne maîtrise pas particulièrement bien l'anglais, c'est très très facile à comprendre, vous allez comprendre.
This is a totally accessible poem. There is nothing in this poem that is in any way difficult to understand. All the words are simple and to the point. There are no new concepts, no theories, no ideas to confuse you. This poem has no intellectual pretensions. It is purely emotional. It fully expresses the feelings of the author, my feelings, the person speaking to you now. It is all about communication, heart to heart. This poem appreciates and values you as a reader. It celebrates the triumph of the human imagination amidst pitfalls and calamities. This poem has 90 lines, 269 words, and more syllables than I have time to count. Each line, word, and syllable have been chosen to convey only the intended meaning and nothing more. This poem abjures obscurity and enigma. There is nothing hidden. 100 readers would each read the poem in an identical manner and derive the same message from it. This poem, like all good poems, tells a story in a direct style that never leaves the reader guessing. While at times expressing bitterness, anger, resentment, xenophobia, and hints of racism, its ultimate mood is affirmative. It finds joy even in those spiteful moments of life that it shares with you. This poem represents the hope for a poetry that doesn't turn its back on the audience, that doesn't think it's better than the reader, that is committed to a poetry as a popular art form, like kite flying and fly fishing. This poem belongs to no school, has no dogma, it follows no fashion. It says just what it says. It's real.
Extrait de cette collection DVD Double Change Archives filmées de poésie.
Oui, alors ce poème que nous cite Charles Bernstein est presque un manifeste en fait pour cette poésie et pour cette collection. Ça décrit bien le mouvement de manière parfois un peu ironique, hein, on le sent, c'est-à-dire que la poésie ne s'adresse pas non effectivement qu'à une élite, c'est pas quelque chose qui nécessite énormément de culture au départ, c'est quelque chose qui peut se préciser rien qu'en lui-même, qui peut être fermé et qui peut avoir tout à fait sa logique. Charles Bernstein en plus le lit magnifiquement bien. Charles Bernstein, ceci dit, c'est loin d'être un petit rigolo aux États-Unis. C'est un immense poète. Des gens comme Fernie Oates, par exemple, lui ont commandé un opéra. C'est quelqu'un de très important là-bas.
Voilà donc pour cette collection Motion Method Memory. C'est aux presses du Réel. Il y a 6 volumes actuellement.
Tout à fait, 6 titres. Il y en a encore un qui devrait sortir, je pense, cette année. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais bon, voilà, à ce rythme-là, on a le temps de les découvrir. Mais vous pouvez tout acheter. Talia Field, en ce compris, dont on n'a pas parlé ici, mais qui est une des toutes grandes dames de ce que l'on appelle la non-fiction américaine, qui est d'ailleurs un milieu d'avant-garde américain où l'on retrouve majoritairement des femmes. C'est assez rare que pour pouvoir le préciser.